RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a quasiment un an, jour pour jour, Paris était frappé par une série d'attentats meurtriers. Depuis, les Français vivent sous le régime de l'état d'urgence. Et quelles ont été les conséquences de ce régime d'urgence sur ces 12 derniers mois? Nous le verrons avec Aubery Métro de RCF Le Mans. Nous partirons ensuite du côté de la Vendée pour l'initiative de la semaine. Un élu local a mis en place un passeport civique pour renforcer la citoyenneté des jeunes. Fanny Brevet nous en dira plus dans un instant. Combattre la pédophilie dans l'église et apporter une aide et un soutien aux victimes de ces abus sexuels, c'est l'une des priorités des évêques de France réunis cette semaine en assemblée plénière à Lourdes. Dans les Pays de la Loire, une cellule d'accueil et d'écoute a été créée récemment. Dans la pause spi, nous aborderons le premier jubilé des détenus qui s'est tenu à Rome dimanche. Un jubilé qui a été célébré dans la région et notamment à Laval où nous retrouverons Samuel Pecot. Et puis cette semaine, c'est la fête à Fontevraud dans le Maine-et-Loire. L'abbaye accueille le public et organise une série d'animations à l'occasion des 900 ans de la mort de Robert d'Arbrissel, son fondateur. L'occasion pour nous de s'intéresser à cette figure historique de l'Anjou. Voilà pour ce qui nous attend dans cette hebdo-région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Et l'actualité de la semaine nous emmène au Mans. Bonjour Aubery Métro.
Bonjour Bastien.
Et cela va faire un an dimanche que la France est placée sous état d'urgence.
Oui, depuis les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, et ça n'a échappé à personne, la sécurité est donc renforcée partout. Des militaires patrouillent dans les gares ou dans les rues. Les secours sont présents aussi sur toutes les manifestations, sur les concerts bien sûr, mais aussi sur les brocantes ou les comices agricoles, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ces missions sont généralement assurées par la protection civile ou la Croix-Rouge. Et ce sont des bénévoles comme vous et moi qui sont présents chaque week-end pour assurer notre sécurité. Les associations ont donc de plus en plus de mal à assumer ce rôle. Éric Marchand est le président de la protection civile en Sarthe.
Il y a un phénomène post-attentat naturel qui fait que on renforce la sécurité, donc on renforce le nombre de secouristes et on met des secouristes sur des événements qui n'en avaient pas forcément besoin avant. Donc une adaptation de l'État au risque actuel qui fait peser, c'est vrai, une charge très très importante sur les bénévoles des associations de sécurité civile et la protection civile en particulier. Eh bien, on fait un peu comme nos collègues, c'est-à-dire qu'on rame beaucoup, on met beaucoup de pression sur nos bénévoles pour fournir les effectifs nécessaires à tous les événements. 25e heure du livre, la parade des pilotes où il y a eu à peu près 20% de secouristes en plus par rapport aux années précédentes. Mais ça touche aussi le personnel de sécurité, ça touche aussi les forces de l'ordre. Donc nous sommes pris un peu dans le maelstrom global.
Et l'autre conséquence au bruit de ces derniers attentats en France, c'est ce besoin ressenti par la population de se former aux premiers secours.
Oui, d'ailleurs, une journée nationale au comportement qui sauve est organisée ce samedi dans toute la France. Alors, plusieurs manifestations sont prévues partout en Pays de la Loire. Les renseignements sont disponibles sur les différents sites internet des protections civiles de nos départements. Mais même sans ces journées spéciales, les formations aux gestes qui sauvent ne désemplissent pas.
C'est vrai qu'on a vu une recrudescence des demandes de formation. L'État, en parallèle, a mis en place des formations de 2 heures pour apprendre les gestes qui sauvent, qui nous a vu former plusieurs dizaines de personnes du grand public. On a vraiment vu cet impact très rapidement, des gens plus intéressés par le secourisme qu'avant. Et ça retombait un petit peu, et malheureusement les attentats de Nice ont remis une nouvelle vague de stagiaires. La plupart de nos formations sont complètes depuis les attentats. Et samedi prochain, il y a une opération dans le cadre de la grande cause nationale des comportements qui sauvent. Toute une journée de formation organisée, donc ces formations de 2 heures.
Et le terrorisme a tué 238 personnes depuis les attaques de Charlie Hebdo. Tout le monde s'en souvient, c'était en janvier 2015. Mais malgré ce triste constat, la préfète de la Sarthe, Corinne Orzechowski, souligne quand même un changement assez positif dans la société française.
Ce que je retiendrai de positif, c'est le fait que les Français se sont quelque part retrouvés entre eux et qu'ils se sentent un peu plus solidaires les uns des autres devant ces difficultés-là. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Et ça, ça me paraît effectivement très, très important, très positif. Il faut que ce ferment-là, ce lien-là reste entre nous.
Le Bataclan rouvre ses portes ce samedi avec un concert du chanteur Sting. Plusieurs cérémonies sont aussi prévues à Paris sur les lieux qui ont été touchés par les attentats il y a un an. Et pour que tous les Français puissent participer à cet hommage aux victimes du 13 novembre, les associations vous proposent de mettre une bougie à votre fenêtre dimanche soir.
Merci Aubery pour ce point complet. Dans le reste de l'actualité, la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes devra-t-elle encore être reportée ? Réponse lundi prochain. En effet, le tribunal administratif de Nantes doit se prononcer sur l'annulation ou non d'arrêtés préfectoraux qui autorisent ce chantier. Lundi dernier, ce même tribunal administratif a entendu les préconisations du rapporteur public. Habituellement, son avis est suivi par le tribunal et le rapporteur public a préconisé l'annulation de 4 des 5 arrêtés préfectoraux indispensables au lancement des travaux. De plus, il a estimé que le projet ne respectait pas les directives de la loi sur l'eau et que l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique était une alternative crédible à celui de Notre-Dame-des-Landes. 6 habitants des Pays de la Loire sur 10 n'ont jamais entendu parler du radon. Et pourtant, ce gaz inodore, incolore et radioactif est très présent dans nos sols. Plus grave, il serait, selon l'ARS, à l'origine de 5 à 12% des décès par cancer du poumon en France chaque année. Et ce, alors qu'il existe des gestes simples pour s'en prémunir, comme aérer son logement ou nettoyer régulièrement son système de ventilation. L'Agence régionale de santé organisait lundi une journée de prévention contre cette menace. La préfecture de Vendée a activé son plan hivernal. Outre le dispositif de veille saisonnière mis en place depuis le 1er novembre, 2 niveaux de mobilisation supplémentaires peuvent être activés selon la température ressentie. Un niveau vigilance verte en cas de température négative comprise entre moins 5 et moins 10 degrés et un niveau vigilance jaune à partir de moins 10 degrés. Au total, le département dispose de 153 places d'urgence mobilisables. Et puis enfin, cette info insolite, Donald Trump, élu président des États-Unis cette semaine, aurait de la famille en Mayenne, très exactement dans le village de Bressé, près de Goron. Et c'est là que vit Robert Trump, retraité, qui serait un cousin éloigné du président américain. En tout cas, leurs deux familles sont originaires de Manchester, en Angleterre, et ils auraient des ancêtres communs. Et précisons tout de même qu'ils ne se sont jamais rencontrés.
L'Hebdo-Région, initiative.
Et Fanny Brevet, bonjour.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
En ce week-end du 11 novembre, focus sur une initiative menée par la municipalité de Talmont-Saint-Hilaire.
L'an dernier, le jeune maire de la commune, Maxence de Rugy, a eu l'idée de lancer un passeport du civisme à destination des élèves de CM2 de la ville. L'objectif, leur transmettre l'amour du pays et le goût de s'impliquer dans la vie de la cité à travers 8 épreuves.
Alors ça c'est pour la théorie, Fanny, mais quelles sont justement ces épreuves ?
Alors, parmi les expériences proposées, participer à une commémoration comme celle du 11 novembre ou du 8 mai, donner un jouet au profit d'une association caritative ou offrir un jouet lors du marché de Noël, ou encore adresser une carte de vœux aux personnes âgées de la maison de retraite de la commune. Maxence de Rugy, le maire de Talmont-Saint-Hilaire, nous dit comment il a eu cette idée.
En fait, cette idée part d'une intuition. Notamment après les attentats de Charlie Hebdo, où il y a eu beaucoup de rassemblements dans chacune de nos communes, en Vendée et en France, et tout le monde a été touché par ces événements tragiques, et on a senti qu'au niveau local, on avait une réponse à apporter, et donc on a souhaité passer du temps de l'émotion légitime à l'action concrète, notamment envers les jeunes CM2 à qui s'adresse ce passeport. Donc une succession de 8 épreuves qui toutes sont dirigées vers le civisme, vers l'attention à l'autre, vers l'intérêt général. Ce n'est pas qu'un projet mairie, c'est toute la commune qui participe à ce passeport du civisme. Et pour chaque épreuve, il y a des référents qu'on a nommés ambassadeurs du civisme. C'est souvent des forces vives de la commune, c'est des présidents d'associations, des gens qui comptent et qui représentent un symbole dans l'engagement et dans le dévouement. Et ils accompagnent tout au long des épreuves des jeunes, tout au long de l'année, la validation des épreuves et du passeport en définitive.
Et les 90 élèves scolarisés en CM2 à Talmont-Saint-Hilaire ont reçu leur passeport au début de l'année scolaire. Les 8 épreuves seront à réaliser soit à l'école, soit sur leur temps personnel. Les précisions de Maxence de Rugy.
Sur les 8 épreuves, 4 épreuves personnelles où l'enfant avec ses parents doit concrétiser l'action. Donc c'est sur son temps personnel. Par exemple, la participation à la commémoration du 11 novembre, c'est une action individuelle. L'enfant avec ses parents vient à la commémoration. Et il y a des actions en classe qui sont avec les enseignants. Donc c'est tout le corps enseignant, les directeurs qui sont impliqués dans la validation du passeport.
Et justement, vous avez tiré un premier bilan de cette première édition ?
Oui, le bilan, on le voit à travers la concrétisation des épreuves et les enfants puisque c'est ce qui compte, c'est une action qui a du sens, adhèrent complètement à l'initiative et sont très fiers. C'est une fierté de pouvoir s'impliquer dans sa commune. C'est le but, c'est comment on aime son pays, comment on aime sa petite cité qui est tellement Saint-Hilaire, comment on s'implique concrètement auprès de ses voisins, de ses amis, comment on discerne ce qu'est l'intérêt général. Et il y a un engouement de tout le monde et notamment des enfants.
En fin d'année scolaire, une remise de diplômes et de médailles est prévue pour récompenser les élèves. Et j'ajoute que cette initiative de Maxence de Rugy séduit de nombreux élus. Il a eu des sollicitations de toute la France, notamment de Mamers dans la Sarthe, de Carquefou et la Chevrolière en Loire-Atlantique et de Poiroux, Moutier-les-Mauffets et la Garnache en Vendée. Une association nationale des communes du passeport du civisme verra d'ailleurs le jour le 1er janvier prochain.
Et des précisions de Fanny Brevet de RCF Vendée. Merci Fanny. On passe tout de suite à la suite.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Une prière pour les victimes de la pédophilie dans l'Église. Tous les évêques de France ont lundi à Lourdes prié pour ceux qui ont subi des violences sexuelles de la part de personnes ayant reçu une mission ecclésiale. Au cours de leur assemblée plénière, les évêques ont également fait le point sur les dernières actions en matière de prévention et d'accueil des victimes. Anthony Torzec, bonjour.
Bonjour Bastien et bonjour à toutes et à tous.
Dans les Pays de la Loire, une cellule d'accueil et d'écoute vient d'être mise en place.
Eh bien Bastien, comme dans les autres diocèses de France, une cellule d'accueil et d'écoute des victimes a été mise en place. Alors non pas dans chaque diocèse de la région des Pays de la Loire, mais les 5 diocèses de la région se sont associés pour mettre en place cette cellule d'accueil et d'écoute des victimes. Elle est composée d'un ancien magistrat, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un avocat et d'une infirmière scolaire. Cette cellule est à la disposition des victimes d'abus sexuels mineurs au moment des faits, commis par des personnes ayant reçu une mission ecclésiale. L'objectif est bien d'accueillir cette parole si difficile à avoir. Monseigneur Jean-Paul Jamme est l'évêque du diocèse de Nantes.
Il est important de nous rappeler que les victimes de ces terribles actes de pédophilie sont marquées à vie. Et que pour elles, pour ces victimes, c'est une épreuve terrible pour lesquelles elles ont du mal à s'en remettre. Et donc, il y a une vigilance à avoir, même si la justice est intervenue, la justice civile est intervenue, il y a une vigilance à avoir pour accueillir les personnes, pour entendre parfois leur détresse, pour entendre leur souffrance, et je crois que ça, c'est assez fondamental. Et ce qui m'a beaucoup frappé, pour avoir rencontré telle ou telle personne, je remarquais que certaines d'entre elles ont voulu parler pour des actes qui se sont déroulés il y a des dizaines d'années, et ce sont souvent des personnes âgées qui viennent parler, et je crois que c'est très important que nous ayons le souci de les écouter. Enfin, c'est ça qu'a voulu la Conférence épiscopale de France en invitant tous les évêques de France à constituer dans leur diocèse ou avec d'autres diocèses, parce qu'on n'a pas toujours les moyens, de constituer une cellule d'écoute et d'accueil des personnes victimes d'actes de pédophilie lorsque ces personnes-là étaient mineures.
Monseigneur Jean-Paul Jamme, l'évêque du diocèse de Nantes, au micro de Christophe Cousseau. Cette cellule d'accueil des victimes de la pédophilie dans l'église peut être jointe à l'adresse mail suivante paroledevictimes@cef.fr ou évidemment en contactant votre diocèse dans cette région des Pays de la Loire.
Des précisions d'Anthony Torzec de Fidélité Nantes. Troisième partie de notre émission, c'est l'heure de l'initiative de la semaine.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Et bonjour Samuel Pecot.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Et dimanche dernier, le pape François a célébré une messe à Rome à l'occasion du premier jubilé des détenus. 1000 prisonniers italiens et espagnols étaient au Vatican pour l'occasion, accompagnés de milliers de visiteurs de prison et d'employés pénitentiaires. Les prisonniers français n'avaient pas fait le déplacement, mais ce premier jubilé des détenus voulu par le pape François a été célébré dans les prisons de la région et notamment à Laval.
Oui Bastien, sous l'impulsion du diacre permanent Jean Hainaut, qui est l'aumônier catholique de la maison d'arrêt de Laval, effectivement lui qui va au moins 3 fois par semaine rencontrer les détenus, a tenu à ce que les prisonniers de Laval s'associent à ce jubilé et qu'ils puissent être en communion de prière avec les détenus présents à Rome, et surtout bien sûr avec le pape François. Il avait donc organisé pour l'occasion une messe un peu particulière.
C'était évidemment difficile pour nous d'aller à Rome, donc nous avons voulu marquer le coup et que les détenus de Laval soient en communion avec ce qui se vivait à Saint-Pierre. Donc dimanche dernier, nous avons une Eucharistie qui a été célébrée par le père Daniel Poirier, qui est d'ailleurs ancien aumônier de la prison. qui était assisté occasionnellement là de deux diacres, donc c'était vraiment solennel. Et donc au cours de cette Eucharistie, eh bien nous avons développé déjà le temps de prière pénitentielle avec un processionnal auquel ont participé les 20 détenus qui étaient présents et qui ont vécu vraiment ce moment de manière très forte. Et puis donc à la fin de la célébration, on leur a remis à chacun une clé. Voilà, alors ça peut paraître étrange dans une prison de remettre une clé. Donc une clé sur un carton plastifié, et sur cette clé, on avait noté donc deux phrases importantes. Une première de Paul Ricoeur, « Tu vaux mieux que ta faute ». Voilà, je crois que c'est tout un message. Et puis ce petit verset de la parole de Dieu au premier livre de Samuel, « Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur ». Voilà. Et donc au dos de cette carte sur laquelle se trouve cette clé, eh bien, il y a une prière de sœur Faustine qui a été très utilisée au cours de cette année de la Miséricorde. Alors cette clé, évidemment, c'était évidemment pour eux, hein, c'était symbolique. Hein, je peux vous dire un petit peu ce qu'on leur a dit. Hein, on a dit quand on ferme une porte, on la ferme à clé. Alors ce matin, nous allons vous remettre une clé, bien sûr pas celle de votre cellule, pas celle de la prison, mais c'est un peu la clé de l'amour, la clé de votre cœur. Et cette clé, eh bien, vous invite à ouvrir les portes de la patience, et il vous en faut tous les jours, dans l'attente d'un jugement, dans l'attente de la sortie, dans l'attente d'un travail en prison. Cette clé aussi, c'est la clé de votre cœur pour ouvrir les portes de l'accueil, lorsque vous attendez un parloir, une visite, la visite de l'aumônier par exemple. Ouvrir aussi les portes de la solidarité avec ce que vous vivez, une poignée de main, un co-détenu, le prêt d'un peu de café, de tabac, un détenu dans le besoin, voilà. Et donc cette clé, je sais qu'elle a été pour eux très appréciée, puisque ce matin je passais dans les cellules et je l'ai vue affichée dans les cellules, et les gars m'ont dit que, eh bien, ils priaient, ils avaient prié avec cette prière de sœur Faustine qui est au dos de leur petite clé, voilà. Donc ça a été quelque chose de, je crois, de fort pour tous ceux qui étaient présents.
Alors dans son homélie dimanche, le pape François a dénoncé, je cite, une société prisonnière de son individualisme. Et donc en ayant cette initiative de jubiler des détenus dans le cadre de l'année de la Miséricorde, c'est l'ensemble des chrétiens qu'il avait voulu sensibiliser au sort des détenus. Un message qu'a souhaité relayer Jean Hainaut dans toutes les paroisses de la Mayenne, sans oublier non plus les victimes.
Voilà, on avait envoyé un courrier aux prêtres, aux responsables des communautés, et pour que ce jour-là, eh bien, on porte dans la prière universelle, par exemple, les personnes détenues, mais aussi, bien sûr, leurs familles, et sans oublier les victimes. Et j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages pour me dire que vraiment, elles étaient sensibles à cet appel qu'on leur avait lancé, et j'ai eu écho de paroisses qui vraiment avaient porté bien ces personnes, toutes ces personnes, dans leur prière. Et pour nous, c'est important que cette réalité de notre monde soit portée par les chrétiens. Voilà.
À noter qu'après le jubilé des détenus de dimanche dernier, ce week-end, c'est Fratello, le jubilé des sans-abri qu'organise le pape François à Rome. Et cette fois, une petite délégation de la Mayenne fait le déplacement au Vatican. Elle est composée de quelques personnes qui ont connu la rue et qui sont aujourd'hui accompagnées par le Secours catholique de la Mayenne dans leur réinsertion. Et je tenais à en parler dans cette hebdo-région parce que c'est un vrai projet régional. Ils font le déplacement avec des groupes de l'association Lazare, d'Angers et de Nantes.
Et effectivement, de beaux rassemblements avant la clôture de l'année Sainte de la Miséricorde qui sera donc fêtée le 20 novembre. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Une chorale de Nantes chante ce vendredi matin devant le pape François au Vatican. Cette chorale, c'est le cœur des gens de la rue au clair de la rue. Elle participe au Festival européen de la joie et de la miséricorde. L'invitation a été lancée par la maison Lazare de Nantes qui accueille des actifs et des personnes sans domicile fixe. Cette chorale nantaise est non confessionnelle, mais elle a accepté de chanter au Vatican par respect pour les paroles du pape François sur les pauvres. Elle interprétera devant le souverain pontife deux chansons, l'Auvergnat de Georges Brassens et la Tendresse de Bourville. Et puis enfin, 450 collégiens sartois ont rendez-vous tout ce week-end à Cap-Espérance, au Mans. Ils viennent des quatre coins du département, des collèges publics et privés pour un rassemblement festif ponctué de temps de rencontres, de prières et de louanges. Ce samedi, Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans, donnera le sacrement de confirmation à 85 jeunes.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Allez, direction le Maine-et-Loire pour un anniversaire un peu particulier, les 900 ans de la mort de Robert d'Arbrissel, celui-là même qui a fondé l'abbaye de Fontevraud, véritable bijou de notre patrimoine historique. C'est d'ailleurs dans ce lieu unique que se dérouleront les festivités ce week-end. Présentation du site, de ses reliques, conférences, concerts, déambulations poétiques et j'en passe. Mais c'est également l'occasion pour nous de nous arrêter quelques instants sur la figure de Robert d'Arbrissel, un personnage pour le moins étonnant, Maria Goyer.
Mais oui, Robert d'Arbrissel. Bruxel est un homme atypique. Son histoire est atypique, à commencer par sa naissance vers 1047. Elle nous est évoquée par Étienne Vaquet, spécialiste et conservateur du patrimoine d'Anjou.
Robert d'Arbrissel est né de père et de grands-parents prêtres. À l'époque, cela n'a pas forcément quelque chose de très choquant, puisque la réforme grégorienne, qui est tout juste en train de s'ébaucher, c'est elle qui va imposer aux prêtres le célibat. Donc Robert d'Arbrissel se trouve finalement à un moment charnière où il est né de manière tout à fait légitime avec ses parents qui vivent dans ce petit village d'Arbrissel dont il est prêtre. Et puis il va rapidement, avec la réforme grégorienne, se trouver finalement dans une position un peu fausse. Et dès le départ, Robert d'Arbrissel est à cheval entre deux mondes, entre deux conceptions de la nouvelle société.
Érudit, Robert d'Arbrissel ne relève d'aucun ordre religieux, très attaché aux valeurs de pauvreté. Il est nommé prédicateur par le pape Urbain II à la fin du XIe siècle pour promouvoir la réforme grégorienne, suivi par un groupe important d'hommes et de femmes acquis à sa cause. Il les fait cohabiter, ce qui est inédit et passe mal d'ailleurs auprès du clergé de l'époque. Robert d'Arbrissel recherche aussi la solitude. Il cultive d'ailleurs une foi très exigeante envers lui-même. Étienne Vaquet.
Puisque c'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a une vie, semble-t-il, dans le monde, pourrait-on dire, connaît les femmes, ça c'est sûr, et surtout aime les femmes. Mais par sa propre mortification, il va tout faire pour lutter contre son corps lui-même, pour dire « mais non, mon corps, il est là pour la prière, et s'il s'endort, eh bien c'est peut-être là où c'est encore plus dangereux, donc je vais le solliciter pour lutter contre et donc aller beaucoup plus près de Dieu. » Ce qui fait qu'il va, dans ce groupe d'ermites qui se créent autour de lui, d'hommes et de femmes, eh bien il va dormir entre deux femmes pour justement résister encore plus. Pour lui, c'est simplement un exercice spirituel que de dormir au milieu des femmes.
Les femmes garderont une place importante dans la vie de Robert d'Arbrissel. Certains historiens le décrivent même comme le précurseur du féminisme. Ce qui est sûr, c'est que quelques années après avoir fondé l'ordre de Fontevraud et son abbaye mixte, en 1101, il ose donner du pouvoir aux femmes. Il délègue rapidement la responsabilité des monastères à une certaine Pétronille de Chemillé.
Pétronille de Chemillé sera en effet la première abbesse de Fontevraud, nommée par Robert d'Arbrissel en 1115, 4 mois avant sa mort. Donc c'est lui, il assure véritablement la succession, la pérennité de l'ordre, au moment où il voit que sa santé décline, et pour cela, non seulement il va la nommer, mais surtout il va réunir un collège autour de lui d'ecclésiastiques extérieurs, voire de laïcs, pour bien la confirmer. Et quelque part, c'est extrêmement habile, ça permet d'éviter toute contestation. Alors, là, la chose qui va évidemment être la plus surprenante, c'est de se dire qu'à la tête de cet ordre double, eh bien, il va y avoir une femme. Et la femme va diriger les hommes. Ouais. Alors Robert d'Arbrissel, pour lui, ça correspond tout à fait à son principe de dormir entre deux femmes. Finalement, qu'un homme obéisse à une femme, c'est presque aussi fort que charnellement, on pourrait dire. Et c'est un peu la transcription de sa propre discipline dans une règle. Et il comprend très bien que ça puisse choquer un certain nombre d'hommes. Ce n'est absolument pas l'habitude de cette époque-là de se faire. Que la femme soit un conseil, qu'elle ait un rôle important, oui. Mais qu'elle soit celle qui dirige, ça c'est beaucoup plus rare.
Et pour en savoir davantage sur Robert d'Arbrissel, n'hésitez pas à vous rendre à Fontevraud ce week-end. Vous y retrouverez notamment Étienne Vaquet samedi pour une conférence intitulée « Reliques et pouvoirs ».
Merci Marie. Et tout le programme est à retrouver sur le www.fontevraud.fr. L'accès est libre dans la limite des places disponibles. Réservation sur le site internet de l'abbaye. Nouveauté à Angers, le parc des expositions accueille ce week-end la première édition du Salon du Cheval. 100 exposants seront présents, installés sur 16 000 mètres carrés. De nombreuses animations et démonstrations seront proposées au public. Les organisateurs voient les choses en grand pour cette première émise sur un événement festif et familial. En voile, Jeff Pellet partira une semaine après les skippers du Vendée Globe en pirate. Le Sablais n'a pas été qualifié pour des raisons sportives et de sécurité. Financé par de nombreux petits partenaires, il a tout de même décidé de s'élancer dans son tour du monde sans escale. Départ ce samedi à 16h des Sables d'Olonne. Et puis une autre information sportive pour refermer ce magazine, grosse pioche pour le club de football du Stade Lavallois. Marco Simone, ancien international italien de 47 ans qui a notamment joué au Milan AC et entraîné Monaco, devient le nouvel entraîneur du club de Ligue 2. Il est arrivé en Mayenne cette semaine avec comme mission le maintien de Laval dans cette division. Le club est actuellement en position de relégable. Sur ce, bon week-end à tous. C'est la fin de cet Hebdo Région, votre magazine d'actualité en région proposé par vos 5 radios chrétiennes en Pays de la Loire. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité.